victoire.
Le président de l'Assemblée nationale accuse les opposants et les membres de la société civile ayant participé à la conférence de l'île de Gorée au Sénégal d'avoir pris part à un séminaire d'endoctrinement. Objectif, apprendre des pratiques subversives en vue d'un soulèvement populaire en RDC. En réaction, le président de la SADO, l'un des participants à cette réunion, affirme qu'il s'agissait plutôt d'un atelier sur les élections en Afrique subsaharienne auquel ont aussi participé d'autres pays africains. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec Martin Fayoulou, il est député national de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Force acquise au changement FAC en sigle. Il a pris part à cette conférence des Gorées. Bonsoir, honorable Martin Fayoulou.
Bonsoir et membre de la dynamique de l'opposition.
Merci. André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Il est aussi président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR en sigle. Bonsoir, l'ambassadeur André Alain Atundu.
Bonsoir.
Et professeur Alphonse Maïndo, il est docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne 1, de Sorbonne Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir, professeur Alphonse Maïndo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un groupe d'opposants congolais et certains membres de la société civile viennent de rentrer à Kinshasa en provenance du Sénégal à l'île des Gorées. Hier à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, se fondant sur un rapport des services de sécurité, accuse ses opposants et ses membres de la société civile d'avoir participé à un séminaire d'endoctrinement pour apprendre des pratiques subversives avec objectif inavoué de réfléchir sur les meilleures voies et moyens pour un soulèvement populaire en RDC. Écoutons Obe Minaku, président de l'Assemblée nationale, dans ses propos recueilli par Mimi Ngumba Mulongo.
Selon les renseignements nous fournis à notre demande, les 10 politiciens et activistes congolais sont regroupés pour un séminaire d'endoctrinement organisé à leur intention à l'Institut de Gorée au Sénégal. Les concernés qui nous ont fait rapport entrevoient derrière ce soi-disant partage des expériences électorales l'ensemble des informations et pratiques subversives à mettre à la portée des opposants et activistes congolais afin de s'inspirer de la mobilisation des jeunes Sénégalais Yanamar et au-delà des expériences tunisiennes, égyptiennes et burkinabées, balais citoyens, objectifs inavoués, réflexion sur les meilleures voies et moyens pour un soulèvement populaire en République démocratique du Congo, constitution d'un fonds anti-dialogue, mise sur pied des structures subversives, obtention des moyens financiers aux fins des actions de déstabilisation.
Faux, rétorque Jean-Claude Katende, président national de la SADO, l'une des organisations de la société civile ayant pris part à ces séminaires. Jean-Claude Katende, qui parle de la défaillance des services de renseignement, précise que cet atelier a porté uniquement sur l'échange des expériences sur les élections et un rapport y afférent existe. Jean-Claude Katende le dit au micro d'Innocent Olenga.
Ce que le président de l'Assemblée a dit dénote tout simplement que nous avons des services de sécurité qui sont défaillants. Parce que s'ils étaient vraiment bien organisés, ils comprendraient que tout ce qu'ils ont raconté n'est pas conforme à la vérité et que par défaut des vraies informations, ces services de sécurité ont induit non seulement le président de la République, mais aussi le président de l'Assemblée en erreur. Et ça, c'est vraiment une honte pour la République démocratique du Congo, dans la mesure où, pour tout simplement une trentaine de personnes qui sont parties à ce séminaire qui n'avaient autre chose que de partager les expériences, qu'on voit que toute la République s'est mobilisée et que les personnes qui étaient parties ont été menacées d'être arrêtées. Mais les gens oublient qu'il y a déjà eu plusieurs réunions auxquelles les partisans de la majorité ont été déjà participés sans que la République ne puisse s'en mouvoir. Et aujourd'hui, parce que les organisations de la société civile et quelques opposants sont allés participer à ces séminaires, toute la République est en émoi.
Martin Fayoulou, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Force acquise au changement FAC et que vous avez aussi pris part à cette conférence des Gorées. Il s'est agi de quoi cette conférence des Gorées?
Écoutez, d'abord, je dois dire que le président de l'Assemblée nationale perd le pédale. Moi, je suis membre de l'Assemblée nationale. Pour sortir pendant la session, je dois justifier mes absences. J'ai écrit au président de l'Assemblée nationale, j'ai la lettre ici, autorisation de sortie. Monsieur le président, je viens par la présente solliciter l'autorisation de sortie pour me rendre à Dakar, au Sénégal, du 10 au 15 décembre courant pour assister à une conférence organisée par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. Et j'ai annexé l'invitation avec le programme.
Il a autorisé.
Mais monsieur Minako a signé l'autorisation. Alors donc, je ne comprends absolument rien. Je crois que Minako, comme les autres kabylistes, sont dépassés par les événements.
Il a été question de quoi à cette conférence de l'île des
Gorées? Il a été question des défis et enjeux des processus électoraux en Afrique subsaharienne. Monsieur Minako parle des expériences tunisiennes et égyptiennes. Nous parlons ici de l'Afrique subsaharienne. On n'a pas parlé de la Tunisie. S'il parle de Mozambique, du Togo, de la Tanzanie, du Sénégal, du Burkina Faso, oui, nous sommes d'accord. De la Namibie, nous sommes d'accord. Mais on n'a pas parlé comment... On n'a pas parlé de l'Égypte ni de la Tunisie. Comment voulez-vous qu'à mon âge, moi, aujourd'hui, je vais aller apprendre des méthodes pour déstabiliser un gouvernement, d'être endoctriné? Quel endoctrinement? Mais ça, c'est très grave. Ça, c'est atteinte à l'honneur. Comment M. Minako peut nous qualifier comme ça? Est-ce qu'il est président de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il se rend compte de la gravité de ses propos?
Alors, puisqu'il est...
Alors, je demande... Non, écoutez, de... non, Alain Hirong. Moi, je demande au procureur... Guy Maté, je demande au procureur général de la République d'ouvrir un dossier sur ces messieurs, parce que ses propos...
Quel monsieur?
Monsieur Minako. Ces propos sont très dangereux. Ce sont ces genres de propos dans ces pays où on tue tous les jours à Béni et que... Monsieur Minako débite de telles bêtises, j'insiste.
Honorable Fayoulou,
c'est dangereux.
Pourquoi, à votre avis, organiser une telle rencontre seulement avec la société civile et l'opposition, sans associer, sans convier la majorité présidentielle?
Mais
et vous avez parlé des processus électoraux, la majorité présidentielle est parmi les acteurs, n'est-ce pas, de ces processus électoraux?
Mais depuis quand dans ces pays, ici, on a eu des séminaires avec la majorité, quand il s'agit du respect de la Constitution. Ici, nous parlons des gens qui sont d'accord avec le respect strict de la Constitution. Moi, j'ai participé à un autre séminaire à Dakar. Monsieur Minako, cette année, si, au mois d'août, Monsieur Minako a signé, l'autorisation de sortie. Alors, je crois qu'il y a péril en la demeure.
Les gens qui sont d'accord avec le respect de la Constitution, qui ne sont pas d'accord avec le respect de cette Constitution?
Les kabylistes ne sont pas d'accord avec le respect de la Constitution.
Vous basez sur quel fait?
Mais sur le fait que aujourd'hui, vous avez dans notre Constitution un poste qui s'appelle commissaire spécial. Est-ce que vous avez dans cette Constitution quelque part où c'est dit que avant d'aller aux élections, ils font un dialogue? Donc vous les avez. Donc nous disons que il faut le respect strict de la Constitution. Nous sommes partis pour partager les expériences des autres pays. J'ai les rapports. Jean-Claude Katende parle des rapports. J'ai les rapports ici en 2 pages et demie. Nous avons fait un rapport et tout ce qui s'était dit. Mais écoutez, Guy Maté, vous vous rendez compte, Gorée, c'est l'île de la paix. Le Sénégal, c'est un pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Le Sénégal, c'est un pays qui a une démocratie exemplaire. Comment est-ce que les gens peuvent aller, 30 personnes, plus une dizaine qui sont venues d'Afrique, aller comploter pour contre un pays. Moi, Fayoulou, je n'ai qu'un pays, j'ai le Congo. Si les gens complotent à Beni pour déstabiliser le Congo, si les gens complotent à l'Est pour déstabiliser le Congo, ces gens-là se connaissent.
Alors, pourquoi la CENCO a demandé à son délégué à cette conférence de pouvoir s'y retirer?
Mais il faut demander à la CENCO. Mais la CENCO a participé parce que la CENCO a été invitée, parce que la CENCO défend le respect de la Constitution. Mais demander à l'abbé Santédi de se retirer, ça, il faut demander et poser la question à la CENCO.
Alors, comment vous expliquez le fait que la réunion s'est tenue à huis clos? Est-ce que vous avez des choses à cacher?
Mais qu'est-ce que vous avez appelé huis clos? Qu'est-ce que vous avez appelé huis clos?
Les informations ont circulé dans la presse la réunion s'est tenue à huis clos.
Mais la réunion s'est tenue dans un institut et l'institut tient ses réunions comme ça. Huis clos, c'est-à-dire que personne d'autre ne peut entrer. Dans cette réunion, les gens qui servaient de l'eau, il y avait quelqu'un qui assurait la maintenance ou... il nous aidait pour la technique. Donc, cette personne était là. Alors, ça, vous appelez ça huis clos?
La CENCO s'est retirée de cette réunion quand elle s'est rendue compte qu'en plus des représentants de la société civile, comme acteurs politiques, il n'y avait que des opposants.
S'il vous plaît, posez cette question à la CENCO. Nous avons appris que la CENCO a subi des pressions, comme nous-mêmes nous avons subi des pressions. Tout ce qui a été raconté ici, que tel et tel autre sont partis dans une réunion pour apprendre comment déstabiliser les pays. Quand les prêtres entendent des choses aussi graves que ce qui a été dit ici, qu'est-ce que les prêtres font? Je crois qu'ils ont demandé à leurs représentants de sortir. On nous a dit même qu'ils sont allés jusqu'à contacter Rome. Mais quand vous parlez du gouvernement sénégalais, est-ce que le gouvernement sénégalais était au courant que les gens étaient là-bas pour chercher à déstabiliser le pays? Et s'ils étaient au courant, ils ne pouvaient pas empêcher ça?
Mais le gouvernement sénégalais dit qu'il n'a rien à voir avec cette réunion qui était privée.
Mais bien sûr, parce que le gouvernement sénégalais a certainement des services de renseignement. Si c'était une réunion subversive, le gouvernement sénégalais allait le savoir et il allait l'empêcher.
Honorable, rapidement, si vous n'aviez rien à cacher, pourquoi à l'issue de cette réunion, vous n'avez pas publié un communiqué officiel?
Mais c'est ça, les communiqués. Mais je vous dis qu'il y a un communiqué, je vous le donne.
Ce n'est même pas un communiqué, c'est juste... Ce n'est pas un rapport, c'est une ébauche des rapports.
Mais écoutez, vous connaissez les réunions et on n'est pas obligé de sortir un communiqué tout de suite. Nous avons un communiqué, nous allons rendre ça officiel et rendre ça public dans les jours à venir. Donc, il n'y a rien à cacher. Mais ce genre de réunions, ce sont des réunions, des types de réunions que nous avons tenues ici.
Merci. André Alain Tundu, porte-parole de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Réunion d'échange d'expérience, en quoi cette réunion était un séminaire de réflexion sur les voies des moyens pour un soulèvement populaire en RDC?
Merci bien. J'ai entendu que le Sénégal était une démocratie paisible, exemplaire. Allez, je vais ajouter sans problème sous le règne de Yanamar. Mais on oublie qu'il y a le problème de la Casamance. Est-ce qu'Yanamar a contribué à la recherche d'une solution pour le problème de Casamance qui existe depuis des décennies et qui ne fait pas du Sénégal un modèle à suivre? Ce n'est pas un paradigme de démocratie.
Ça, c'est la France est une démocratie, mais il y a des problèmes avec la force.
Ah, voilà donc. Donc, ce n'est pas une démocratie exemplaire. Mais c'est ça. Je voudrais lui rappeler que quand il dit que chez nous, on tue à Béni, etc., et nous connaissons les instigateurs qui étaient aussi à l'île de Gorée, eh bien, en Casamance, on tue.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire que cette réunion d'échange et d'expérience était une réflexion pour un soulèvement populaire?
Un préalable aussi. Il a dit que dans ce genre de réunion, il n'y a jamais eu de majorité, opposition, etc. Non. L'Institut Global Dialogue d'Afrique du Sud a organisé plusieurs réunions de ce genre pour chercher le consensus entre Congolais. Eh bien, c'est chaque fois, il y avait des délégués de la majorité, des délégués de l'opposition et de la société civile. Et déjà le fait que les prêtres ou l'Église se retirent, mais ça doit mettre la puce à l'oreille. Les prêtres aujourd'hui, on les présente comme des gens timides.
Et vous n'étiez pas au courant de cette réunion? Vous ne saviez pas que la réunion allait se tenir?
On n'était pas invité, on n'était pas censé être au courant, puisqu'on n'était pas invité. On n'est pas censé être au courant.
Alors, comment vous, avec qui répondez-vous à M. Jean-Claude Katende, qui est un des participants à cette conférence, et qui estime que les services de sécurité ont induit le chef de l'État ainsi que le président de l'Assemblée nationale en erreur, parce qu'il ne s'est pas agi des réflexions pour un soulèvement populaire en RDC, mais plutôt d'un échange d'expériences sur les élections?
D'abord, le Sénégal n'a pas nié la dénonciation faite. Il a dit, nous ne sommes pas concernés. Mais il ne s'est pas prononcé sur cette dénonciation ferme. L'Église, de même, il a dit, nous retirons. Et pourquoi se retire-t-il? Alors, de la part de M. Katende et de tous les participants, ça ne m'étonne pas. Ce sont des négationnistes, des gens qui nient la réalité. Et de la part de quelqu'un qui est présumé coupable, j'allais dire, d'atteinte à la sécurité de l'État, de menées subversives, etc. Je crois que il faut attendre que l'Assemblée puisse réagir par commission d'enquête, je ne sais pas, par le règlement d'ordre intérieur, etc. Mais il n'est pas le mieux placé pour se dédouaner.
Constitution d'un fonds anti-dialogue, mise sur pied des organisations subversives, obtention des moyens financiers aux fins des actions de déstabilisation. Et selon les participants, il n'a jamais été question de tout cela. On parle de la défaillance des services de sécurité qui ont induit les chefs de l'État, je l'ai dit ici, et les présidents de l'Assemblée nationale en erreur. Vous ne pensez pas que ces accusations sont graves, Monsieur Atondou?
J'ai entendu quelqu'un ici se présenter coordonnateur du front anti-dialogue, etc. Et quand vous allez parler du processus avec des gens qui sèment la mort à Béni, des gens qui ont quitté, qui ont abandonné
la responsabilité... Là, vous faites allusion à qui? Quand vous parlez des gens qui sèment la mort à Béni.
Mais il le connaît.
Il s'agit de qui?
Il le connaît.
Il était parmi les participants?
Il le connaît, oui. Il était parmi les
participants. On espère qu'il va nous donner son nom.
Quand vous allez là-bas pour parler de ceci ou de cela, il faut avoir le courage de dire oui, nous y sommes allés pour ceci, pour cela. Parce que ce qu'eux voudraient instaurer ici chez nous, c'est d'abord une démocratie unilatérale, où la vérité ne se trouve que du côté de l'opposition. Et quand l'opposition prend position, c'est celle-là qui s'impose à la nation. Ensuite, ils voudraient une démocratie presque paradoxale. Au lieu de chercher le pouvoir auprès du peuple, par les élections, qui sont aujourd'hui, qui connaissent probablement des problèmes et où il faut aller au dialogue pour essayer de le prévenir, ils préfèrent instrumentaliser le peuple, confisquer le pouvoir du peuple et essayer d'obtenir une certaine légitimité de sang. Ça, c'est très grave.
Il n'y avait pas que la RDC, il y avait aussi des pays comme le Mozambique, il y avait des pays comme le Togo. Cela veut dire que tous ces pays se sont coalisés pour déstabiliser la RDC?
À quelle fin?
Non, parce que vous dites que les participants à cette conférence avaient comme objectif de déstabiliser la RDC.
Ce ne sont pas des pays, ce sont des ressortissants de ces pays.
Alors, monsieur l'ambassadeur, vous vous basez sur quels éléments, en fait, quels sont les éléments sur lesquels vous étayez vos accusations? Est-ce que vous avez des documents, par exemple? Est-ce que vous avez des enregistrements? Est-ce que vous avez des témoignages?
Je ne saurais être plus clair que le président de l'Assemblée nationale. Eh bien, il a donné des précisions, des informations en sa possession, et il a déclaré du haut du perchoir. C'est une dénonciation solennelle, j'allais dire.
Alors,
et donc,
pourquoi...
pour l'instant, laissons la passion de côté, que le règlement d'ordre intérieur du Parlement puisse se saisir, le Parlement ou la plénière se saisir de l'affaire, au regard du règlement d'ordre intérieur, le comité des sages est là, et éventuellement, comme l'ont exprimé certains députés, on pourrait assister à l'érection d'une commission d'enquête.
Alors, pourquoi vous semblez vous insurger quand on sait que les autorisations de sortie ont été signées par le président de l'Assemblée nationale, c'était même confirmé par l'honorable Fayoulou.
Il n'est pas... M. Fayoulou ne représente pas la totalité des participants. Il y a des participants qui ont eu leur autorisation pour aller se faire soigner à Bruxelles. C'est un cas d'abus de confiance.
Ils devaient aller en Europe, mais
ils
on
sont allés en Europe, et puis de là, ils ont fait le crochet. Alors ça c'est malhonnête. Alors, abandonner une session parlementaire, ne pas répondre à l'appel ou à l'invitation du garant de la nation pour privilégier quelques réunions obscures d'intérêts douteux pour notre démocratie et pour le fonctionnement de notre République, c'est un peu révoltant pour toute conscience républicaine bien faite.
Monsieur l'ambassadeur, une certaine opinion pense qu'à travers les griefs que vous formulez, que la majorité ou que le président de l'Assemblée nationale formule à l'endroit de ses participants, et vise à intimider et à museler et tout ce qui semble s'opposer au schéma de la majorité présidentielle qui consiste à organiser, n'est-ce pas, les dialogues nationaux.
On ne peut donc plus se référer à la loi, on ne peut plus avoir un comportement soi-disant pour intimider. Nous avons dénoncé officiellement. Le président de l'Assemblée a dit qu'il a dénoncé officiellement. Et les autres membres de l'Assemblée sont allés jusqu'à exiger des sanctions. Et c'est grâce à la sagesse du président qui a dit non. Nous avons le règlement d'ordre intérieur, nous avons le comité de sages, nous pouvons créer une commission d'enquête.
Merci.
Et voilà.
Professeur Alphonse Mahindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, comment vous analysez ces débats, échanges d'expériences selon les participants, apprendre des pratiques subversives en vue d'un soulèvement populaire en RDC selon la majorité présidentielle?
Merci beaucoup Guy Maté. Je pense qu'il y a je pense qu'il faut d'abord revenir à ceux qui ont organisé cette rencontre. J'ai pas été, mais ayant travaillé pendant 2 ans au Gorée Institute comme directeur de programme, je peux dire un petit mot sur cet institut qui est un institut panafricain qui a été créé par des Sud-Africains pour essayer d'apporter des problèmes. Disons, d'apporter des solutions aux problèmes africains, notamment aux problèmes de démocratie, pour assurer un développement. Donc, si vous voulez, il y a 2 mots-clés pour cet institut, le Gorée Institute, c'est démocratie et développement pour l'Afrique. Et donc, si je me base sur les lieux où l'institut qui a organisé cette institution, je suis vraiment, si vous voulez, à 1000 lieues de penser un seul instant qu'il puisse y avoir une réunion là-bas qui viserait à déstabiliser, à créer des guerres et tout ça dans les pays, disons, en RDC. Parce qu'un des objectifs de cet institut, c'est justement mettre un terme aux conflits armés en Afrique. Voyez-vous. Et moi, pendant 2 ans, j'ai dirigé les programmes démocratie et développement dans cet institut-là. Voyez-vous. Donc je ne peux pas imaginer un seul instant qu'il y ait, si vous voulez, une espèce de subversion de détournement des objectifs de cet institut.
Alors,
ça c'est le premier point. Oui.
Oui, vous semblez faire les éloges, n'est-ce pas, de cet institut. Comment vous expliquez qu'ils organisent une telle rencontre sans convier les délégués de la majorité présidentielle, le fait que cette rencontre soit organisée à huis clos et à l'étranger, et le fait que quand les participants sortent, ils disent qu'ils vont se faire soigner en Europe, mais ils se retrouvent dans un pays africain. Comment vous expliquez cela?
Alors, d'abord, les réunions de Gorée Institute ne se terminent jamais avec un communiqué de presse. Donc, c'est toujours, il y a des rapports qui sont rédigés, et puis après, il y a des publications qui sont faites et tout ça. Donc, ça, ça fait partie de la normalité des choses. Deuxièmement, en ce qui concerne les gens qui mentent, voyez-vous, parce que c'est le mot, il faut pas cracher le mot pour sortir. Je suppose que cela est lié probablement au contexte sociopolitique un peu tendu dans lequel le pays se trouve en ce moment, où il y a des suspicions à gauche, à droite. Alors les gens, ils se disent, si je demande une autorisation en disant que je vais participer à des réflexions sur sur la démocratisation, sur les processus électoraux, on risque de ne pas me donner l'autorisation de sortie, tout ça. Alors ils mentent. Je suppose que vous savez, c'est comme dans une famille, quand vous avez un père de famille qui est toujours assez rigoureux avec les enfants finissent par lui mentir pour trouver des raisons pour sortir de la maison. Voilà, je vais étudier, on a préparé des cours avec des amis et tout ça. Ils mentent dans ce contexte-là. Je ne justifie pas, mais c'est inadmissible, si vous voulez, de la part de députés, d'utiliser la ruse, le mensonge. Mais ça montre bien les degrés assez élevés de démocratie dans notre pays qui n'accepte pas facilement, si vous voulez, d'autres voix discordantes. Alors, il me semble que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas admettre de la part du Gorée Institute d'avoir organisé une rencontre de ces gens, parce que ça a toujours été fait de manière à avoir les différentes sons de cloche. Je me souviens avoir organisé en 2007 un forum sur la Guinée-Conakry. Et là, on avait invité toutes les parties prenantes de la crise guinéenne, pouvoir, donc des ministres, de militaires, de syndicalistes qui constituaient à l'époque une grande force politique dans ce pays, la société civile, l'église et tout ça. On avait invité tout le monde. Et on avait invité également des généraux sénégalais et des politiques sénégalais pour aider dans les discussions de manière à trouver une issue pacifique à la crise guinéenne.
Alors,
je suis un peu surpris, hein, voyez-vous, et je ne comprends pas comment ils ont commis cette erreur grave de ne pas inviter les autres protagonistes de ces crises démocratiques qu'on a en Afrique subsaharienne. C'est une erreur grave.
Alors, vous avez évoqué le fait qu'il se pourrait que certains participants, pour obtenir l'autorisation, ont dû mentir. Et si vous vous mettez à la place du gouvernement congolais et que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous demande une autorisation de sortir pour une raison donnée, et après vous rendez compte que ce qu'il est allé faire n'a rien à voir avec la raison qu'il avait évoquée, comment allez-vous réagir, vous, en tant que gouvernement?
Dans ce cas, il y aura de la suspicion. On va commencer à imaginer qu'il y a des idées noires derrière tout ça. Et donc, dans ces conditions-là, moi, si j'étais gouvernement congolais, il y a une représentation diplomatique dans ce pays. Qu'est-ce que je ferais? Dans cette représentation diplomatique, il y a des services compétents. Il y a les représentations de l'agence de renseignement, de renseignement militaire. Et je pourrais donc utiliser un de ces services-là pour aller là-bas, soit comme un journaliste, soit faire passer n'importe comment, pour pouvoir interroger les gens là-bas, essayer de savoir ce qui se passe. Voilà. Après, je constituerai donc un dossier pour me baser. Parce que les accusations qui ont été faites sont suffisantes, sont très 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 graves. Hein, et à mon avis, il y a aussi de la manipulation au niveau au sommet de l'État. Je ne peux pas comprendre que les présidents de l'Assemblée, qui est une des plus hautes autorités de la nation, puisse tenir de tels propos s'il n'a pas été manipulé par certaines personnes. Et je voudrais savoir qui a intérêt à faire ça et dans quelle intention ces personnes-là ont manipulé les plus hautes autorités. Voyez-vous, ça peut être... Et quand on sait la situation dans laquelle notre pays se trouve en ce moment, nous avons des tensions graves, on ne peut pas manipuler l'autorité à ce point parce que les conséquences peuvent être dramatiques, voyez-vous. Il faut donner à l'autorité toute la vérité. Il ne faut pas chercher à manipuler l'autorité pour que l'autorité prenne des décisions qui pourraient être préjudiciables, voyez-vous, qui pourraient empirer une situation qui est déjà assez compliquée pour le moment.
Et donc, professeur, vous estimez que les services de sécurité devraient d'abord collecter des éléments suffisants, n'est-ce pas, avant de formuler les accusations à l'endroit des personnes qui ont participé à cette conférence?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce que la sagesse eût recommandé, c'est-à-dire faire des vérifications et demander donc à la représentation diplomatique qui est là sur place de faire des vérifications ou même dépêcher une équipe sur place pour aller infiltrer, soit en se faisant passer pour un journaliste ou quoi, pour vérifier ces informations-là. Et on aurait tout de suite su qu'il n'était pas, à mon avis, à moins d'être fou, on ne peut pas convoquer un effectif aussi important de personnalités de différents pays pour faire un complot, sauf à être fou, quoi. Quand les gens font un complot, ils font ça en petit groupe et ils essaient de garder le plus longtemps possible les secrets de ce genre de choses-là. Donc on ne peut pas, je ne sais pas, sauf s'ils ont perdu la raison, quoi. On ne peut pas, je ne peux pas imaginer que les gens puissent être capables d'imaginer de faire un complot de cette manière.
Voilà, nous avons perdu les professeurs. Monsieur Fayoulou, nous allons prendre une question qui vous est destinée. Voilà, on va l'écouter.
Alain Bolodja, depuis Kinshasa. La présence de ces personnalités politiques est loin d'être un fait isolé. La chronologie de certains événements pousse les esprits avertis à comprendre que cela est une suite logique d'un plan opérationnel. Il vous souviendra que cette nébuleuse opposition avait initié une opération dite « Kabila dégage des tristes mémoires ». Par la suite, il y a eu les événements du 19 au 21 janvier de l'année en cours. Et à cela s'ajoute le discours incongru fondé sur une interprétation onéreuse de l'article 64, mais également le ballet diplomatique qu'a effectué cette opposition. Il ne faudrait pas non plus négliger le fait que le M23 a bénéficié du soutien de celle-ci, et sans compter que les invitations ont été adressées qu'aux radicaux. Au regard de tout ce qui précède, le président de l'Assemblée nationale est en droit de justifier cette démarche vicieuse.
Honorable Martin Fayoulou.
Mais c'est, je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais d'abord, je voulais revenir sur l'ambassadeur à Tonto. Quand il dit
non, que... vous ne comprenez pas ce que...
Non, 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 mais je vais répondre. Okay. Le problème de Casamance. Le problème des Casamance, comme vous avez dit, en France, avec la Corse, c'est un problème d'autodétermination. Comment parler de ces problèmes quand il s'agit de la démocratie? Non, je ne comprends pas. Je crois que M. Atundu a dérapé. Et comme le professeur dit, M. Minaku a perdu la raison. Parce que traiter des gens, nous autres, que nous sommes allés là-bas apprendre des pratiques subversives en vue de soulèvements populaires. Mais c'est très grave. Alors, je vais revenir sur notre ami Alain Bolodja. Non, quel plan opérationnel, cher ami? Il n'y a pas de plan opérationnel. Quand nous avons fait mener des opérations ici, touche pas mon 220, pas de présidence à vie en RDC, pas non à la balkanisation du Congo, Maloma le dégage, comme vous avez dit. Peuple congolais, réveille-toi, l'air a sonné. Mais est-ce que on est parti ailleurs pour initier de telles actions? Non. Le problème ici, c'est que nous avons un pouvoir, un gouvernement qui ne veut pas respecter la Constitution, et la Constitution est claire, il demande à tout Congolais, c'est un devoir, tout Congolais a ses devoirs de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Donc nous sommes partis en âme et conscience, nous avons discuté au grand jour, et comme dit le professeur, mais c'est ce que je vais dire au professeur. Mais si on a invité seulement les gens qui défendent la Constitution, qui ne vous dit pas que c'est le premier round qu'on invite ces gens-là et que peut-être il y aura un deuxième round, on inviterait les autres et après on ferait, comment dit la jonction, on a vu ça ici, nous avons eu des réunions avec la MONUSCO où la MONUSCO au départ a invité seulement les kabylistes. Et puis, bon, on s'est posé la question. On n'a même pas demandé à la MONUSCO qu'est-ce qui se passait. Et après, nous avons vu que la MONUSCO nous a appelés et à la fin, nous nous sommes retrouvés tous ensemble. Donc, je crois que la Fondation Konrad Adenauer, l'Institut des Gorées, et comme il est bien dit, fondé par les Sud-Africains, ne peuvent en aucun cas s'hazarder à réunir 40 personnes. Merci. Et à leur apprendre des méthodes subversives.
Monsieur l'ambassadeur Atundu, il y a une réflexion qui est faite pour vous. Hein. Il vient de Beni au nord Kivu.
Abdoul Makati, depuis Beni, dans le nord Kivu. Admettons que les opposants et les membres de la société civile ont pris part au Sénégal à un séminaire pour apprendre la pratique avide des soulèvements populaires en RDC. Mais devant une majorité au pouvoir qui est vraiment consciente que la constitution sera bel et bien respectée dans ce pays, cette démarche de l'opposition et des membres de la société civile serait considérée comme un non-événement, car ces derniers ne peuvent pas procéder au soulèvement populaire si la constitution sera bel et bien respectée en 2016.
Oui, monsieur l'ambassadeur.
Ça m'étonne que quelqu'un de béni puisse tenir ce raisonnement. Il a donc déjà oublié le M23. C'était sous la légalité de la constitution actuelle. Eh bien, contre les faits, les arguments ne valent rien.
Si vous êtes conscient, si la majorité est consciente que la constitution ne sera pas respectée, mais pourquoi elle semble s'agiter quand les opposants vont à l'étranger pour
elle ne s'agite pas, et contrairement, à ce que pense le professeur, laisse augurer le professeur, je crois que les services ne doivent pas faire le rapport au professeur. Hein, les rapports sont faits aux autorités compétentes, et sur base de ces rapports, probablement que le président de l'Assemblée s'est exprimé. Mais néanmoins, établissons quand même une certaine corrélation des choses. Le plan opérationnel auquel a fait allusion l'interlocuteur de tout à l'heure. Oui, il y a d'abord la volonté générale de bloquer la marche du pays en vue de créer une situation pré-insurrectionnelle.
De la part de qui ?
De la part de ceux qui sont opposés au dialogue. Tenez donc. Un, opposition au dialogue. Ils ne veulent pas répondre à l'appel, à l'invitation du garant de la nation.
Est-ce qu'ils sont obligés de répondre à cette invitation ?
Ils ne sont pas obligés, mais ils sont tenus de répondre.
Cela veut dire quoi ? Ils ne sont pas obligés, mais ils sont tenus de répondre.
Ben oui, cela veut dire que pour faire les choses de façon concrète, ils devraient se présenter, parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de notre pays.
Mais ils ont une autre logique ?
La logique, c'est l'intérêt du pays, c'est le développement de la démocratie, qui est aujourd'hui plombé par le processus électoral. Deuxièmement, le sabotage des plénières, pour des raisons futiles. Troisièmement, l'interpellation du vice-premier ministre de l'Intérieur, des interpellations téméraires. Vous allez interpeller le ministre et demander sa démission parce qu'il agit conformément à la loi. Ça, tout cela participe à la volonté de bloquer les institutions. On n'a pas besoin de faire des dessins. Il y a des gens qui sont payés pour savoir ça.
Merci. Professeur Maïndo, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kinshasa.
Patient Diamongo Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. Entre le président de l'Assemblée nationale absent à cette rencontre et celui de la SADO qui était participant, qui dit vrai, pourquoi tout sujet qui a trait aux élections en République démocratique du Congo indispose-t-il d'une manière ou d'une autre les pouvoirs de Kinshasa? La rencontre de Dakar est semblable à celle organisée secrètement à Ibiza et à Venise entre l'UDPS et la majorité au pouvoir, malgré son issue fastidieuse, et je pense que le président de l'Assemblée nationale devrait demander gentiment le compte-rendu à ses collègues et frères de l'opposition afin d'en tirer les conséquences que de se limiter aux accusations gratuites et partisanes, selon moi.
Professeur Maïndo.
Oui, ben, écoutez, je pense que l'intervenant résume quand même une situation qui me semble assez paradoxale. Hein, donc, parce qu'on aurait pu aussi faire les mêmes reproches aux négociations secrètes qui avaient eu lieu en son temps en Italie et en Espagne entre l'UDPS et le gouvernement pour pouvoir se mettre d'accord de manière organisée les dialogues. Bon, mais si vous voulez, le vrai problème qui se pose, c'est qu'on est là face je pense, si on est en train de vouloir faire la démocratie. Alors, le président de la République s'est félicité des progrès réalisés en matière de démocratisation, et c'est ce que j'entends aussi M. Atundu rappeler, et qu'il faudrait continuer cet effort de développement. Alors, s'il y a effort de développement de la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il faut permettre qu'il y ait de différentes voix qui puissent parler, qui puissent s'exprimer, qu'il y ait un véritable espace public où il y a des débats, où il y a échange d'idées, où on accepte que les gens puissent avoir des idées différentes, notamment qu'ils puissent pouvoir ne pas participer à un dialogue, qu'ils puissent dire voilà, nous on n'est pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement et qu'ils souhaitent autre chose. Mais ça fait partie des jeux normaux de la démocratie.
Professeur.
Mais ils vont attendre leur tour, le jour où ils seront au pouvoir, et bien à ce moment-là, ils appliqueront leur politique. Voyez-vous, c'est ça les jeux.
On ne
peut pas avoir une démocratie sans qu'il y ait une véritable, si vous voulez, un jeu de débat d'idées.
Professeur Mahino, dans un contexte où on parle de dialogue, ces éléments ne viennent-ils pas, n'est-ce pas, compliquer la donne?
Alors, ces éléments peuvent compliquer la donne. Parce que quand on voit, tout à l'heure j'écoutais M. Tundu parler de la présence de certaines personnalités qui seraient impliquées dans des choses. Voilà, parce que moi j'ai regardé un peu j'ai suivi un peu la situation à travers les médias. J'ai vu des photos qui ont été publiées en ligne de certains participants. Et j'ai vu qu'il y avait un certain exilé congolais qui était là, ancien chef de groupe armé qui est reconverti. Bon, peut-être qu'on peut se poser des questions, hein. Vu on veut parler de démocratie, il y a certains acteurs qui participent à ça, mais qui ne sont pas véritablement des grands défenseurs de la démocratie, quoi. Alors on peut se poser la question sur la sincérité de ces gens-là. Est-ce que c'est pas seulement des opportunistes, nous qui veulent saisir une opportunité qui se présente à eux pour se repositionner sur la scène politique nationale? Donc moi, c'est la question que je me poserai.
Professeur, vous allez commencer à conclure. Et avec tous ces éléments, comment vous entrevoyez l'évolution de la situation politique en RDC?
Alors moi, avec tous ces éléments-là, j'ai comme l'impression que on est dans une zone de turbulence assez forte. On ne fait que commencer à rentrer dans cette zone de turbulence. Et tout le monde a un peu la sensibilité à la fleur de la peau, quoi. Et il suffit d'un petit moindre geste et qui s'est analysé, c'est interprété d'une certaine manière par les uns et par les autres. Donc on se soupçonne mutuellement, on se prête des intentions mutuellement, on se fait des prochaines intentions mutuellement. Je pense que pour nous, si nous voulons sauver notre pays, chacun doit pouvoir avoir la tête froide et cesser de se suspecter mutuellement, c'est faire d'abord, si vous voulez, s'asseoir et parler et dire à chacun l'un à l'autre tranquillement. Et pas éviter les suspicions. Moi, c'est ce que je pense. Ça, c'est ma conclusion.
Merci, honorable Fayoul. Vous allez aussi conclure. Comment vous entrevoyez l'évolution de la vie, de la situation politique en RDC?
Non, moi, je dois d'abord commencer par féliciter les derniers intervenants, et je crois que les Congolais ont compris. Félicitations pour sa réflexion. Et je dis.
Patient, Biamungu, Rukuba,
tout à fait. Il a bien compris. Quand les gens sont partis à Ibiza ou à Venise, je crois qu'ils ont utilisé l'argent de la République, et nous devons demander des comptes. Et je dois dire à monsieur Tundu que quand on vous pose une question, par oui ou non, un oui c'est une réponse, un non c'est une réponse. Nous avons dit à M. Kabila non, son dialogue est inopportun, c'est un piège. Et quand nous demandions les dialogues, nous, depuis fin 2011, toute l'année 2012, 2013 et ainsi de suite, M. Kabila nous a dit que non, les institutions de la République fonctionnent. Il est parti au 69e sommet des Nations Unies. Il a dit que le Congo, c'est un pays qui est debout.
La conclusion.
Alors, la conclusion, c'est qu'ils sont en train de faire de la diversion. Comme le dialogue a échoué, on veut nous distraire pour des sujets comme ça. Offrir aux Congolais un sujet de discussion, pendant ce temps-là, ils vont glisser. Non, ils ne passeront pas. Jamais.
Monsieur l'ambassadeur Atundu, votre conclusion?
Eh bien, le pot rose est découvert. C'est donc ça, l'agenda caché dont il nous parlait tout le temps et qu'on ne comprenait pas très bien. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de similitude entre les pré-négociations entre l'UDPS et la majorité, dont l'objectif était connu, favoriser le dialogue.
Mais ça s'est passé à huis clos.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, l'objet est bien connu. Merci. Et là-bas, pourquoi on a exclu la majorité? Pourquoi on a exclu la majorité?
Merci, monsieur.
Donc,
merci,
je note qu'il y a eu beaucoup d'embarras. Et en réalité, ce sont des apostats de la démocratie qui ont perdu.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Alain Goy qui est à la technique et à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Hung, Derek Franklin Luchaka, sous la supervision de Julien Nyamouni, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capitale.